Travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Cela fait maintenant plus de 3 semaines que la gauche et la droite passent leur temps à s'envoyer des boules puantes. Et il faut dire qu'ils ont de la matière. Évasion fiscale, financement occulte, abus de biens sociaux, trafic d'influence, corruption, achat de voix, écoute, mensonge. C'est un spectacle écœurant. Une fois dans la place, combien de politiciens se sentent tout permis ? Et agissent comme s'ils étaient au-dessus des lois. Et le système pousse dans ce sens. Prenons l'appareil d'État. Il est bâti pour fonctionner de haut en bas, avec un réseau de hauts fonctionnaires, non élus, inconnus de la population, incontrôlables. Les présidents de la République sont mis au-dessus de tout, et au-dessus même de la justice, puisqu'ils sont protégés par leur immunité. Et surtout, le monde de tous ces politiciens est celui de la bourgeoisie, celui de l'argent facile, où les renvois d'ascenseur sont une manière de vivre. Oui, la caste politique est à l'image de notre société. Une société pourrie par l'argent, par les privilèges et par la réussite individuelle. Tous les politiciens ne sont pas pourris, mais tous, en revanche, gouvernent pour servir les intérêts des plus riches et du grand patronat. Et s'ils se ressemblent, c'est qu'ils ont tous été formés et sélectionnés pour leur fidélité à la bourgeoisie et à son système. Ils placent tous leur activité politique dans le cadre de la propriété privée des entreprises, dans le cadre des lois du marché, du profit, de la concurrence, y compris le Front National, qui ne cesse de dénoncer le système UMPS pour cacher justement sa dévotion au système capitaliste. Leur priorité à tous ces politiciens, ce sont les affaires de la bourgeoisie, les profits de la bourgeoisie, la compétitivité de la bourgeoisie. Quant aux travailleurs, aux chômeurs, aux retraités des classes modestes, eh bien, ils sont toujours priés de patienter le temps que l'économie aille mieux. Pour cette caste politique, les travailleurs ne sont que les soutiens de l'économie, sommés de s'adapter et d'accepter leur sort d'exploité. Il n'y a aucune pitié, aucune mesure favorable à attendre de ces gens-là. Et puisque les élections municipales du 23 mars nous donnent la possibilité de dire ce que nous pensons d'eux et de leur politique, il ne faudra pas s'en priver. Les travailleurs doivent se saisir de ces élections pour rejeter ce spectacle politicien et pour faire entendre leur opposition à la politique patronale, qu'elle soit menée par la droite ou par la gauche. Hollande s'est fait élire sur le slogan « Le changement, c'est maintenant ». Il a continué la politique de Sarkozy. Sarkozy était le président des riches, on peut dire que Hollande est le président des patrons. Depuis qu'il est au pouvoir, Hollande a satisfait toutes les exigences patronales, sans hésiter à faire reculer la condition ouvrière des années en arrière. Les patrons ont demandé plus de flexibilité, ils l'ont obtenu. Ils ont voulu un crédit d'impôt compétitivité, ils l'ont eu. Ils voulaient faire baisser les droits des travailleurs à la retraite. Hollande l'a fait en aggravant la réforme Sarkozy. Quant à la bataille pour l'emploi, elle est encore le prétexte pour verser des milliards au patronat. Depuis que le gouvernement ne peut plus nous lanterner avec son histoire d'inversion de la courbe du chômage, il veut nous enfumer avec le pacte de responsabilité, qui est présenté d'ailleurs par tous les médias comme quelque chose de nouveau, comme une tentative inédite pour lutter contre le chômage. Quelle comédie ! La seule chose inédite dans cette affaire est l'importance du cadeau octroyé au patronat, 30 milliards d'euros. Mais il est ajouté, en fait, à la longue liste des allègements de cotisations patronales qui n'ont jamais créé d'emplois dans le passé et qui n'en créeront pas plus demain. D'ailleurs, le patronat le dit clairement, il n'y aura pas de contrepartie en termes d'emploi. Il prendra les 30 milliards, un point c'est tout. Et Hollande et Hérault savent à quoi s'en tenir depuis le début, parce qu'ils savent que dans cette période de crise, le patronat licencie à tour de bras. Ils savent qu'ils n'envisagent pas une seconde d'embaucher. Et bien sûr, le gouvernement ne veut surtout pas le contraindre. Sa politique est à l'exact opposé. Ce sont les patrons qui fixent leurs conditions et le gouvernement qui obtempère. Hollande et Hérault sont les hommes à tout faire du grand patronat. Ils sont à leur service et ils ne conçoivent pas d'autre politique que de lui servir la soupe. La bataille pour l'emploi, c'est le grand alibi pour imposer des reculs inédits aux travailleurs, pour permettre à la bourgeoisie de se servir directement dans les caisses publiques pour augmenter ses profits. Et pendant qu'ils nous joueront la comédie du pacte de responsabilité, eh bien les lettres de licenciement tomberont pour les travailleurs de Goodyear, pour ceux du transporteur Maury Dicro, pour les salariés de la Redoute. Alors même que Goodyear fait des bénéfices, alors même que le groupe Pinault, qui vient de vendre la Redoute pour sous-traiter les licenciements, est un groupe qui prospère. La cure d'austérité que le gouvernement est en train de nous concocter fait partie du même plan d'attaque contre les travailleurs. Le gouvernement a promis de faire 50 milliards d'économies sur les dépenses publiques d'ici 2017. Pour l'instant, il garde le secret sur les sales coups qu'il prépare. Mais ce qui est sûr, c'est que ce seront les classes populaires qui paieront. Parce que le gouvernement ne touchera pas aux dépenses publiques faites en faveur du patronat. Il ne touchera pas aux 50 milliards que l'État verse annuellement aux banquiers en intérêt de la dette. Il ne touchera pas non plus aux milliards versés à Dassault au titre de l'achat de Rafale et autres gadgets militaires. L'État continuera de servir de vache à lait à tous ces grands groupes capitalistes. En revanche, il touchera à l'argent des communes, des départements, des régions. Il demandera à tous les ministères de serrer la vis. Et il imposera des restrictions aux hôpitaux, à l'éducation nationale. Cela sonnera aussi la fin de certaines aides et de certaines subventions aux associations. Et tout ce que les services publics n'assureront plus, eh bien, il faudra le payer, en passant par des entreprises privées. Alors pour les travailleurs, il ne s'agira pas d'économie, mais ce sera bien des sacrifices supplémentaires. Alors, ce gouvernement est un ennemi des travailleurs, et il faut le combattre avec la même détermination que l'on mettrait à combattre un gouvernement de droite. Cela fait des décennies que le système politique fonctionne ainsi. La gauche succède à la droite aux affaires, puis la droite à la gauche, et ainsi de suite. Avec quelques changements dans les mots, mais avec une politique fondamentalement semblable. Et crise oblige, le patronat s'est fait plus exigeant ces dernières années. Et il est revenu au Parti socialiste, parce que c'est lui qui est au pouvoir, de prendre depuis 2 ans les mesures les plus rétrogrades, les plus régressives que l'on ait vues depuis bien longtemps. Je parle par exemple de l'accord national interprofessionnel, cet accord pourri que les socialistes ont transformé en loi et qui donne la possibilité au patronat, comme il le réclamait depuis longtemps, de pouvoir baisser les salaires en toute légalité ou de se débarrasser même de la notion de CDI. Je parle aussi de la compétitivité et de la baisse du coût du travail. Car pour les travailleurs, la compétitivité, c'est le grand retour en arrière. C'est l'exploitation, le travail précaire, les salaires de misère. Et le prétendu coût du travail est un mensonge. C'est de la propagande patronale. Car le travail ne coûte pas aux capitalistes, il leur rapporte. Si embaucher des travailleurs coûtait plus cher aux patrons que cela ne leur rapporte, cela ferait belle lurette qu'ils auraient fermé la dernière usine, le dernier bureau, la dernière ligne de bus, le dernier hypermarché dans ce pays. Alors les travailleurs n'ont pas à se laisser prendre au piège de la propagande sur la compétitivité. Les patrons cachent leur cupidité derrière ce discours. La compétitivité, c'est leur raison d'être, mais pas celle des travailleurs. Alors, les exploités doivent revendiquer leur dû, sans se soucier des conséquences sur la compétitivité, sans se soucier de gêner les affaires de la bourgeoisie. La seule perspective pour la classe ouvrière est de se battre pour ses intérêts propres, pour sa survie, quoi qu'il en coûte au patronat. Et si la bourgeoisie et ses serviteurs politiques ne sont pas capables d'assurer le minimum vital aux travailleurs, eh bien qu'ils laissent la place. Et si ce système capitaliste n'est pas en mesure de garantir aux exploités leurs droits élémentaires à avoir un emploi et à en vivre, il faut le renverser. Oui, la lutte de classe existe. Mais pour l'instant, il n'y a que la bourgeoisie qui l'amène. Et si les travailleurs ne l'amènent pas, c'est à cause de leur direction. Les grands partis de gauche, le Parti socialiste et le Parti communiste, ont une responsabilité majeure et ancienne dans la démobilisation des travailleurs. C'est peu dire que ces partis ne combattent plus les pressions idéologiques de la bourgeoisie dans la classe ouvrière. Ils contribuent à les distiller eux-mêmes. Aujourd'hui, le Parti socialiste ne prétend même plus représenter les intérêts des exploités. Il a enterré toute idée de transformation sociale. Et il voudrait, comme le patronat, enterrer aussi les mots comme « exploité », « classe ouvrière », « lutte de classe ». Et surtout, ne plus entendre parler de conscience de classe. Quant au Parti communiste, qui a gardé une influence plus grande dans la classe ouvrière, il a aussi une responsabilité majeure dans la démoralisation des travailleurs et dans la perte de leurs repères. Faut-il rappeler que c'est le Parti communiste qui a redonné crédit aux dirigeants socialistes rejetés par la population après avoir envoyé des centaines de milliers de jeunes mener une sale guerre coloniale en Algérie? Faut-il rappeler que c'est le Parti communiste qui a fait de Mitterrand, homme bourgeois par excellence, un homme de gauche? Le PCF a ensuite usé son crédit pour soutenir le gouvernement Jospin. Et enfin, il a permis avec Jean-Luc Mélenchon l'élection de Hollande. Et ils s'en sont même vantés. Tout cela au nom de l'idée qu'il n'y aurait point de salut pour les travailleurs sans l'arrivée de la gauche au pouvoir. Mais la gauche au pouvoir, on l'a vu et on la voit aujourd'hui. Et tout cela ne pouvait que dégoûter, démoraliser un nombre croissant de travailleurs, à commencer par les militants ouvriers eux-mêmes, et en particulier par ceux du Parti communiste. Car c'était à eux que revenait la tâche de défendre l'indéfendable devant leurs camarades de travail. C'était à eux que revenait le sale boulot de lanterner les travailleurs. Combien de fois les ministres communistes se sont-ils retrouvés à justifier la rigueur salariale, les reculs des services publics, les privatisations, en mettant en porte-à-faux les militants de leur propre parti? Combien de ces militants se sont sentis trahis et ont abandonné l'activité militante après ça? Alors, loin de diffuser la conscience de classe, le Parti communiste a été le vecteur de l'électoralisme. Il n'y a rien de plus illusoire et de plus démoralisant. Eh bien, il faut en tirer la leçon. Il est vain d'espérer changer efficacement la vie des travailleurs par les élections. La seule voie véritablement efficace pour changer la vie pour les exploités est celle des luttes collectives contre le grand patronat capitaliste pour lui contester la direction de l'économie. Quant aux confédérations syndicales, elles partagent avec les grands partis de gauche la responsabilité dans la démobilisation des travailleurs et dans le recul de la conscience de classe. Au lieu d'expliquer aux travailleurs que leur sort dépend du rapport de force qu'ils seront imposés face au patronat, ces directions syndicales font mine de prendre au sérieux les mensonges du patronat, estampillés par le gouvernement. Elle cautionne la politique de négociation à une période où il est évident que le patronat ne veut rien négocier, si ce n'est des mesures qui aggravent la situation des travailleurs. Il ne faut pas être dans l'opposition, mais dans la proposition, disent-elles. Il ne faut pas être dans une attitude négative, mais avoir une attitude constructive, disent-elles. Mais pendant ce temps, les licenciements se multiplient. Le chantage à la compétitivité fait reculer les conditions de travail. Des millions de travailleurs sont menacés. Alors ce ne sont pas les travailleurs qui se détournent des syndicats. Ce sont les directions syndicales qui tournent le dos aux travailleurs en refusant d'organiser leur défense. Bien heureusement, les organisations syndicales, ce ne sont pas seulement des directions bureaucratiques coupées du monde du travail. Ce sont essentiellement des militants qui, dans les entreprises, sont confrontés à la lutte de classe et qui se battent comme ils le peuvent. Et bien des choses dépendent de ces militants, de leur état d'esprit et de leur capacité de comprendre le pourquoi de la politique de leur direction et le pourquoi de la désaffection des travailleurs à l'égard des syndicats. Il est important que ceux qui se posent des questions mesurent la responsabilité des partis de gauche dans la démobilisation des travailleurs. Et surtout, qu'il surmonte ce qui fut la plaie des méthodes staliniennes, c'est-à-dire le fait de faire les choses sans les travailleurs et même de se méfier d'eux. Ils doivent reprendre confiance dans la classe ouvrière, s'appuyer sur leurs camarades de travail et sur les plus combatifs. Car lorsque les travailleurs décideront de se lancer dans le combat, eh bien ils se lanceront et ils se battront avec la même détermination que l'on a vue chez les ouvriers de Peugeot à Aulnay et chez ceux de Continental. Le capitalisme est plus révoltant que jamais, car la richesse est incomparablement plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a un siècle et demi. Au début du capitalisme, l'exploitation féroce de la bourgeoisie avait de quoi révolter. Mais les richesses issues de cette exploitation n'étaient encore qu'un îlot de prospérité dans un océan de misère rurale. Aujourd'hui, la bourgeoisie baigne dans un océan de richesses, mais ces richesses, au lieu d'être un avantage pour la société, sont devenus un frein, un facteur de spéculation, de crise, de chômage et de misère. Un chiffre résume la folie du capitalisme. Les 85 premières fortunes du monde détiennent l'équivalent de ce que possède la moitié la plus pauvre de l'humanité, soit 3,5 milliards de femmes et d'hommes. Ce décalage extravagant entre l'étalage de richesses de la classe exploiteuse, ses jets privés, ses hôtels particuliers, ses produits de luxe. Et la pauvreté, voire la condition d'affamé d'une partie de l'humanité, ne peut pas perdurer. Sous prétexte que les riches ont le droit d'investir leur fortune où ils le veulent, y compris de les jouer au casino de la spéculation, il faudrait accepter le gâchis effroyable des possibilités productives. En dépit des progrès scientifiques et techniques, il faudrait s'interdire de maîtriser les conséquences de l'activité humaine sur la nature, sur l'environnement. Il faudrait continuer de condamner une partie de la planète au sous-développement, à la barbarie, aux guerres. Combien de pays sont en ce moment à feu et à sang ? La Syrie s'enfonce dans une guerre atroce. En Afrique, les affrontements ethniques débouchent sur de nouvelles atrocités. En Centrafrique, où l'intervention de l'armée française ne fait que rajouter de l'huile sur le feu. Ici même, en Europe, après la chute du régime autoritaire et corrompu de Yanukovych, sous la pression de la contestation populaire, l'Ukraine s'enlise dans les affrontements entre nationalismes rivaux, faute d'autres perspectives. Le pourrissement dans lequel s'enfonce une partie de la planète ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur nous ici. Le fait même que l'armée française soit engagée dans les guerres impérialistes le montre. Quant aux événements en Ukraine, il se déroule à nos portes. Mais la situation pèse aussi sur nous tous à un autre niveau. La misère et le chômage vont de pair avec le chacun pour soi, avec le délitement moral de la société, avec le repli sur soi, et ils favorisent la résurgence des idées réactionnaires, du sexisme, des idées religieuses. La remontée des idées racistes et antisémites et des communautarismes, qu'elles soient exprimées par Dieudonné, par Marine Le Pen ou par le ministre Valls, fleurit sur le même terreau, sur le terreau d'un capitalisme qui dégénère. Et si nous faisons le choix de défendre une politique qui se place exclusivement sur le terrain de la classe ouvrière, c'est qu'elle est la seule classe sociale qui peut s'attaquer à la racine même du capitalisme. La classe ouvrière est la seule force porteuse d'autres valeurs que celles du nationalisme et de l'individualisme. Elle est la seule classe capable d'empêcher la société de prendre un cours réactionnaire. Oui, les travailleurs sont la seule force progressiste de notre temps. Mais pour emmener la société vers une société vraiment humaine, les exploités doivent reprendre le combat pour leurs intérêts de classe et affronter la classe capitaliste. Si, à notre petite échelle, nous pouvons contribuer à faire vivre ou conforter cette conscience de classe, ne serait-ce que dans une petite fraction de la classe ouvrière, il faut le faire. Car c'est cette conscience qui peut, dans une période de remontée des luttes, transformer les travailleurs isolés en une classe sociale agissante, en une force politique capable de peser. Il faut que la classe ouvrière se manifeste dans toutes les occasions de la vie politique et qu'elle mette en avant son programme, les valeurs de son propre camp, sa propre politique. Et il faut qu'elle le fasse aussi dans les élections. Ce sera le sens des listes Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs que nous présenterons aux élections municipales et aux européennes. Au municipal, il y aura 204 listes Lutte ouvrière dans les grandes villes et dans les villes ouvrières du pays. Quant aux européennes, nous présenterons des candidats dans toutes les circonscriptions du pays. Mais les élections municipales sont donc les premières à venir. Et elles seront la première occasion qui sera donnée aux travailleurs de dire ce qu'ils pensent de la politique du gouvernement. L'occasion pour exprimer leur colère contre cette politique anti-ouvrière et affirmer leur volonté de se défendre contre les licenciements, contre la démolition de leur pouvoir d'achat, contre l'aggravation de l'exploitation. Patienter, espérer une hypothétique reprise, voilà tout ce qu'offre le gouvernement aux travailleurs. Alors qu'il y a urgence, alors qu'à cause du chômage, des millions de travailleurs sont menacés dans leur existence même. Eh bien, il faut des mesures radicales et contraignantes. Sauf à interdire aux grands groupes de licenciés, on n'arrêtera pas la montée du chômage. Sauf à se mettre en travers des intérêts du grand patronat, on ne stoppera pas l'hémorragie. Il n'y a pas de travail à donner à tous, répondront les patrons. Eh bien, qu'on impose qu'il soit réparti entre tous, sans diminution de salaire. Et pour résorber... Et pour résorber le chômage, car il y a plus de 5 millions de femmes et d'hommes qui sont privés d'emploi, eh bien, il faut des embauches partout où le personnel manque, partout où les cadences de travail et les horaires sont devenus insoutenables, partout où les salariés ne peuvent plus poser leurs congés. Et il faut arrêter avec ces contrats précaires scandaleux où tous les 6 mois, un travailleur en remplace un autre, mis au chômage. Oui, cela coûtera au patronat, mais les grands groupes ont de quoi payer. Et à défaut, qu'ils puisent dans les fortunes accumulées par les grands actionnaires. Quant aux difficultés des plus petites entreprises, c'est à celles plus riches d'y parer, et aux banques. L'État a aidé les banques pendant la crise, à coups de centaines de milliards, en prétendant qu'elles étaient indispensables pour financer l'économie, et bien qu'elles le fassent donc aujourd'hui. Mais les travailleurs n'ont pas à être sacrifiés pour les entreprises éclopées de ce système capitaliste. Tout cela n'est irréaliste que si l'on considère que les fortunes de la bourgeoisie sont intouchables. Mais dans une société normalement constituée, l'évidence imposerait qu'en période de crise, l'argent serve d'abord à sauver les emplois, à sauver ce qu'il y a de plus essentiel et de plus vital à la population. Et pour que chacun puisse vivre dignement aussi, il faut relever le SMIC à 1 700 € net. Et il faut obtenir qu'il augmente au même rythme que les loyers, que le gaz, l'électricité, les mutuelles, les assurances. Et ce, non seulement pour les salaires, mais aussi pour les pensions de retraite et pour tous les minima sociaux. Ces deux objectifs sont liés à un troisième. Celui de contrôler les comptes et les décisions des entreprises. Celui de faire la transparence sur les circuits de l'argent. Cette question est revenue sur le devant de la scène, en particulier avec l'affaire Copé. Vous avez peut-être entendu à cette occasion Guénot, député UMP des Yvelines et ancien conseiller de Sarkozy, dénoncer cette transparence en l'assimilant à du voyeurisme, à la société du soupçon, à de l'inquisition et à la chasse aux riches. Mais prenez un ouvrier ou un employé. Qu'est-ce qu'il peut cacher à son patron, à son banquier ? Un patron connaît ce qui est versé sur le compte en banque de ses salariés. Il connaît aussi leur situation maritale, le nombre de leurs enfants, leurs problèmes de santé. Et s'il veut faire une enquête sur leur engagement syndical ou politique, il a tous les moyens pour le faire. Et les Guénot et compagnie trouvent ça tout à fait normal. Eh bien, nous, ce que nous trouvons normal, c'est de demander des comptes à ces messieurs parce qu'ils sont des menteurs professionnels, c'est de ne pas leur faire confiance. Alors, nous sommes bien sûr pour la transparence de la vie politique, mais la vraie transparence seraient aussi celles qui permettent de savoir où passent les millions qui sont produits quotidiennement par les travailleurs. La vraie transparence doit s'exercer vis-à-vis de l'ensemble de la bourgeoisie, surtout la grande. On nous dit tous les jours qu'il n'y a plus d'argent pour embaucher ou pour augmenter les salaires, qu'il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, pour les retraites, pour les transports. Mais on voit aussi que les plus fortunés continuent de dilapider de l'argent dans des caprices de riches. On voit les paradis fiscaux prospérer. On voit que la spéculation continue à coups de milliards. Alors oui, il faudrait connaître les circuits de l'argent. Connaître non seulement les comptes des riches, mais aussi les comptes de ces grands groupes qui licencient, compriment les salaires, signent des contrats de rapace avec leurs sous-traitants. Le secret commercial, le secret bancaire et le secret des affaires font partie des armes du patronat pour imposer leur domination. Eh bien, la levée de ce secret doit aussi faire partie du programme des travailleurs. Nous avons dit et répété que les élections municipales ont beau être des scrutins locaux, les votes auront une signification politique nationale. Tous les votes en faveur des uns et des autres seront portés au crédit des partis, au crédit du Parti socialiste, de la droite ou du Front national, et ils seront compris comme l'approbation de leur politique. Les hommes politiques, de la gauche mais aussi de la droite, par hypocrisie et par crainte que le discrédit de leur parti ne leur nuise, se démarquent de la politique nationale. Ils insistent pour faire de ces élections municipales des élections purement locales. Mais cela ne doit tromper personne. Quant à croire que les municipalités peuvent faire quoi que ce soit pour protéger les travailleurs, les chômeurs, les retraités, les handicapés, les enfants, c'est un leurre. Aucune municipalité n'a les moyens de combattre le chômage et la baisse du pouvoir d'achat. Même celles qui sont de bonne volonté à l'égard des plus pauvres ont à composer avec les étages supérieurs de l'appareil d'État, avec les préfectures, avec les ministères. Et surtout parce que ces possibilités d'intervention ne font que diminuer avec la crise. Et parce qu'avec les 50 milliards de coupes budgétaires que le gouvernement a décidées, elles continueront de diminuer. Alors, les travailleurs, les chômeurs, les retraités, écœurés par la politique du gouvernement, doivent se saisir de ces élections pour dire leur colère. Et leur dire, avant tout aux deux coteries, à la droite et la gauche, qui se relayent au pouvoir pour mener fondamentalement la même politique, qui consiste à aggraver la situation des classes laborieuses au profit de la grande bourgeoisie. Tant que nous ne sommes pas capables de les chasser, nous sommes peut-être bien obligés de les subir. Mais rien ne peut nous obliger à les approuver et à redemander des coups en votant pour eux. Il y a aussi les listes présentées par le Front national. Le Front national joue sur le fait que leur parti n'a jamais été associé au pouvoir central. Il en fait un avantage politique. Mais il rêve d'accéder à la Mangeoire. Les dirigeants du Front national sont aussi hypocrites et arrivistes que les autres. Depuis quelques années, ils ont compris que son électorat réactionnaire, composé d'anciens de l'Algérie française, d'antisémites nostalgiques de Vichy, ou d'intégristes catholiques ne lui permettrait pas d'accéder à la Mangeoire. Alors la dynastie Le Pen s'est diversifiée. La famille, qui est millionnaire, fait désormais dans l'indignation sociale et dénonce le chômage, les bas salaires, les petites retraites, voire le CAC 40. Tout cela pour faire croire que Marine Le Pen défend les ouvriers. La réalité, c'est qu'elle fait comme tous les autres. Qui ne déplore pas le chômage? Qui ne dénonce pas les impôts qui pèsent sur les plus modestes? Tout le monde sait le faire, même et surtout ceux qui sont responsables de la situation. Alors verser des larmes de crocodile, faire des promesses, est à la portée de tout démagogue. Mais encore une fois, dans cette société, et surtout dans cette période de crise, tous ceux qui ne sont pas déterminés à faire payer la bourgeoisie et à s'en prendre à ses profits, au profit des grands groupes capitalistes et aux exploiteurs, se préparent à gouverner contre les travailleurs. Et si Le Pen parvenait au pouvoir, eh bien, elle ferait la politique de la droite, en plus autoritaire encore. Et Le Pen ne s'en cache pas. Ce qu'elle veut faire payer, ce sont les immigrés, c'est-à-dire des travailleurs, c'est-à-dire une partie de nous-mêmes. Eh bien, ceux parmi les exploités qui envisagent de voter pour le Front national votent contre leurs propres intérêts. Parce que ce vote sera interprété comme l'exigence d'une politique plus dure contre les chômeurs, plus dure contre les syndicats et contre les travailleurs qui veulent s'organiser et se défendre. Bien sûr, il faut dénoncer la politique de Hollande. Mais il faut que cette dénonciation vienne des travailleurs et qu'elle se fasse sur la base de leurs intérêts. La droite et l'extrême droite n'ont pas le monopole de l'opposition. Les travailleurs peuvent faire entendre leur camp et leurs intérêts de classe en votant pour les listes lutte ouvrière. Certains électeurs sont tentés de se réfugier dans l'abstention. On l'entend beaucoup, parce qu'ils se ressemblent tous, disent-ils. Et ils n'ont pas tort. Oui, tous les politiciens ont été formés et sélectionnés pour leur fidélité à la bourgeoisie et au système. Mais s'ils s'abstiennent, alors qu'ils ont la possibilité de dénoncer cela par leur vote, et il est possible de le faire en votant pour les listes lutte ouvrière, ils se bâillonnent, ils s'auto-censurent. En s'interdisant de les dénoncer, ils font le jeu de leurs ennemis. Dans combien de pays les électeurs n'ont d'autre choix que de voter pour un personnel politique choisi, soumis au pouvoir en place? Dans combien de pays les travailleurs essayent de construire leur syndicat et leur parti et ne peuvent pas le faire parce que c'est la dictature? Ici, ce n'est pas le cas. Alors il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand les travailleurs ont la possibilité de rejeter sans ambiguïté leurs ennemis politiques et d'affirmer leur propre politique, ils doivent le faire. Certains croient diminuer la portée du vote pour nos listes en le qualifiant de vote protestataire. Eh bien oui, c'est un vote protestataire, car il est plus qu'urgent de protester et de dire « ça suffit ». Mais c'est un vote utile aussi, car c'est montrer que l'on ne se résigne pas au chômage, à la perte du pouvoir d'achat, à l'aggravation de l'exploitation. Non, ce n'est pas un vote défouloir, comme le disent certains avec mépris. C'est un vote préparatoire, car protester en appelant aux luttes des travailleurs, c'est préparer l'avenir. Voter pour les listes lutte ouvrière permettra aux classes populaires de montrer qu'il existe dans le pays une opposition ouvrière au gouvernement, qu'il y a des travailleurs conscients de leurs intérêts, conscients des luttes à mener. Et au-delà de la dénonciation de la politique d'un gouvernement, ce vote montrera que l'on rejette l'ordre capitaliste dans son ensemble, parce qu'il est basé sur l'exploitation, sur le vol légal des travailleurs, et parce qu'il fait que l'enrichissement d'une minorité dépend de l'appauvrissement de tous les autres. Au-delà de la politique politicienne, ces élections permettent aux travailleurs, aux chômeurs, à la jeunesse consciente du sort que le capitalisme lui réserve, de faire un geste politique sans ambiguïté. Elles permettent d'affirmer la dignité ouvrière, la fierté d'appartenir à une classe sociale qui produit tout, qui fait vivre la société et qui représente la seule voie pour que la société reparte de l'avant. Alors votez et faites voter pour les listes lutte ouvrière. La constitution de 204 listes lutte ouvrière est un encouragement. Cela n'aurait pas été possible sans le choix et sans l'engagement de plusieurs milliers de femmes et d'hommes des classes populaires de se présenter sur des listes qui se revendiquent clairement du camp des travailleurs. Cela ne représente qu'une petite partie des agglomérations plus ou moins importantes du pays. Mais notre présence est nettement plus importante que lors des municipales précédentes, et ce, dans un climat politique pourtant plus défavorable. Eh bien, c'est un gage pour l'avenir. L'écho que nos idées ont trouvé, malgré la démoralisation et l'écœurement général, montre ce que pourrait faire un véritable parti, présent dans toutes les villes, dans tous les quartiers, dans toutes les barres d'immeubles, dans toutes les entreprises. Alors, camarades, il nous reste une semaine. Et je fais appel à la participation de tous pour convaincre leurs proches, pour discuter autour d'eux, dans leurs entreprises, avec leurs voisins. Et pour celles et ceux qui le veulent bien, pour distribuer des tracts, coller des affiches ou pour apporter leur contribution à l'une ou l'autre des multiples activités propres aux campagnes électorales. Bien sûr, Le résultat ne dépend pas seulement de nos efforts. Nous sommes dans une période politique où les idées de la bourgeoisie ont tellement pris le dessus que seule une minorité peut marquer sa sympathie pour la politique que nous défendons. Mais le problème n'est pas de faire des pronostics. Et ce n'est pas non plus de se décourager face aux faibles scores électoraux. Il faut commencer à agir par un bout. Nombre de travailleurs se retrouvent isolés, se retrouvent livrés à eux-mêmes et déboussolés à cause justement du recul militant. Et la constitution de nos listes montre que la présence de militants pour regrouper et entraîner ne serait-ce qu'une fraction de travailleurs est précieuse. Alors, nous avons à faire tout ce qui est dans nos possibilités pour que cette minorité soit la plus conséquente possible. Plus le nombre de ceux qui voteront pour nos listes sera important, plus les objectifs de lutte que nous proposons seront entendus. Et cela comptera pour l'avenir. Ce sera un encouragement pour ceux qui sont déjà convaincus de la nécessité de ce programme de lutte et un encouragement pour beaucoup d'autres, pour tous ces travailleurs qui subissent aujourd'hui les coups mais qui n'ont pas encore assez confiance dans notre force collective. Et au-delà de la campagne pour les municipales et pour les européennes, nous poursuivrons avec tous ceux qui se sont joints d'une façon ou d'une autre à ces campagnes, de sorte que de nouvelles fractions de travailleurs fassent du drapeau des travailleurs et des idées communistes leur propre drapeau.